cet été, j'ai voulu explorer un peu plus avec vous cette fameuse question de la relation fraternelle, de la communion fraternelle. C'est-à-dire tout ce que la Bible enseigne aux chrétiens au sujet des relations qu'ils doivent construire entre eux, particulièrement. Donc, pendant 4 dimanches, on va étudier ensemble quelques-uns de ces fameux « les uns les autres » dont la Bible regorge. Vous savez, un verbe, faites ceci, les uns les autres. Il y en a, j'oublie le chiffre, plus d'une trentaine, je crois, dans le Nouveau Testament, il y en a plein. Donc, on va commencer aujourd'hui en se posant 2 questions. Il va bien falloir poser un peu les choses sur ce sujet-là aujourd'hui quand même. La première question sera, l'Église, c'est quoi ? Je sais, ça paraît basique, mais il faut bien commencer par là quand même. Et la deuxième question qu'on se posera aujourd'hui, c'est quel est le principe fondamental sur lequel l'Église repose ? Déjà, est-ce qu'il y a un principe fondamental ? Si oui, quel est-ce ? Lequel est-ce ? Et c'est dans cette deuxième partie que nous aurons notre premier « Les uns les autres » de la série. Alors, on va commencer par notre première question. L'Église, c'est quoi ? En étudiant ensemble rapidement, enfin non pas rapidement, en étudiant ensemble, un texte qui se trouve en Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 22. Donc lecture d'Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 22, je lis dans la version Summer. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ, car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même, en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Et j'arrête là, cette lecture, c'est déjà pas mal. Ce texte nous dit que l'Église, c'est avant tout un peuple. Un peuple que Dieu a créé parce que ça faisait partie de son plan, de sa volonté. Le texte nous dit qu'il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité. Il voulait, il le désirait. L'Église, c'est un peuple que Dieu a voulu. Et ce peuple, il l'a alors créé. Dieu l'a voulu, Dieu l'a réalisé, et donc ce peuple lui appartient. L'Église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu. C'est une des définitions du mot. On dit on va à l'église comme un lieu, mais l'église n'est pas un lieu. L'église n'est pas non plus une institution. L'église, c'est un peuple. L'église, c'est des gens. C'est des personnes. Mais il ne suffit pas de mettre des personnes ensemble pour en faire un peuple. Il faut quelque chose qui relie ces personnes, qui les unisse. Il faut quelque chose en commun pour faire un peuple. Par exemple, le peuple français, bon, ben, je vais parler de ce que je connais, qu'est-ce qui fait que c'est un peuple ? Ah, on m'a dit la langue, je dirais que c'est vaste question. On peut avoir des avis différents sur qu'est-ce qui fait un peuple. On pourrait prendre un critère linguistique, la langue, si on parle français, on fait partie du peuple français, on pourrait penser ça. Pour certains, ça sera la nationalité, hein, ça sera un critère administratif. Si on a une carte d'identité ou un passeport français, eh bien, on est français, on fait partie du peuple français. Pour d'autres, le critère sera peut-être géographique. Si on habite sur le sol français, on fait partie du peuple français, nationalité ou pas. Pour d'autres, ça sera un critère peut-être culturel. Hein, si nous avons reçu l'héritage culturel français, encore faudrait savoir le définir, mais eh bien une part de nous, en tout cas, est française, peut-être, linguistique, administrative, géographique, culturelle, chacun choisit le ou les critères qu'il veut. Mais pour le peuple de Dieu, c'est quoi le critère qui relie, qui unit des personnes aussi différentes que nous le sommes en un seul peuple? Est-ce que c'est un critère linguistique? Non. Bon, bien évidemment, non. Tous les chrétiens ne parlent pas la même langue. Est-ce que c'est un critère géographique? Bien sûr que non. L'Église est dispersée sur la terre tout entière. Est-ce que c'est un critère administratif? Non, il n'existe pas de carte d'identité chrétienne, ça n'existe pas. Est-ce que c'est un critère culturel? Non plus. Non plus, vu que la foi chrétienne s'incarne différemment dans toutes les cultures du monde. Il n'y a qu'à regarder la louange. Nous avons parmi nous, je le vois, des frères et des sœurs qui peut-être ont des racines de pays d'Afrique, peut-être qui viennent directement de ces pays-là. Je pense que là-bas, ils ont pu y connaître des formes de louange très très différentes de celles qu'on a vécues ce matin. Et même sans aller aussi loin, ici même, à Angoulême, si vous allez à l'assemblée évangélique de la rue Fonchaudière, si vous allez à l'église Saint-Martial en centre-ville, ou si vous venez ici le dimanche matin, eh bien la forme, la culture du culte sera très très différente. Ce qui unit le peuple de Dieu, c'est forcément autre chose. Alors qu'en dit notre texte? Je vous relis le verset 16. « Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. » Voilà le critère qui permet l'Église, qui lui donne son existence, son identité de peuple. C'est la croix, c'est le Christ. La Bible nous explique que les humains sont en rébellion contre Dieu. Ils veulent vivre leur vie sans lui, ou alors avec lui, d'accord, mais en se façonnant un Dieu qui les arrange, qui leur convienne, sans réellement chercher à le connaître pour qui il est vraiment. Mais comme l'Église est le peuple de Dieu, eh bien on ne peut pas l'intégrer si on est en rébellion contre lui. Il fallait donc qu'on puisse être avant tout réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que le Christ a fait à la croix. Sur la croix, Jésus a payé à notre place ce que nous méritions pour notre rébellion. Dieu est amour, on le dit souvent, et c'est bien, répétons-le encore et encore. Il est amour, donc il voulait plus que tout pouvoir nous pardonner, mais Dieu est également parfaitement juste. Et il ne peut pas déclarer un coupable innocent. La justice, c'est de déclarer un coupable coupable. Si un coupable est déclaré innocent, on appelle ça encore de nos jours une erreur judiciaire. Eh bien, nous étions coupables de notre rébellion, mais Dieu voulait nous pardonner par amour pour nous. Alors, pour pouvoir nous pardonner tout en restant parfaitement juste, il a décidé de prendre sur lui-même la sanction que nous méritions. Sur la croix, Jésus a payé le prix de notre réconciliation avec Dieu. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, enfin nous avons la possibilité de venir faire partie de son peuple. On en a la possibilité, ça nous ouvre la porte, ça permet l'existence du peuple de Dieu. Mais il manque encore quelque chose, il manque ce lien, cette chose en commun, ce critère qui ferait de tous ces gens dispersés dans le monde, un peuple uni. Eh bien, voilà ce que nous en dit notre texte. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Et un peu plus loin, et unis au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Ce qui nous lie, ce qui nous lie à Dieu, mais qui nous lie aussi entre nous, notre texte nous dit que c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'une fois que nous acceptons le Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, alors Dieu nous donne son Esprit en nous. Il donne son Esprit à chacun des croyants pour que cet Esprit fasse à la fois le lien entre nous, individus, et Dieu, mais aussi entre nous et les autres membres du peuple de Dieu. Que nous soyons de confession catholique, protestante, orthodoxe, évangélique, anglicane, que nous ayons telle ou telle forme culturelle de louange et d'adoration, que l'on préfère prier à voix haute ou dans le silence, que l'on préfère une louange moderne ou traditionnelle, que l'on soit d'un pays ou d'un autre, si nous recevons le Christ comme Seigneur et Sauveur par son œuvre sur la croix, et si nous recevons son Saint-Esprit en nous, alors nous sommes de fait unis à l'ensemble du peuple de Dieu. Nous sommes unis à la famille de Dieu. Nous sommes unis à l'Église du Christ. L'unité des chrétiens, ça ne dépend pas de notre volonté de nous accueillir. L'unité des chrétiens est un fait. C'est l'œuvre du Saint-Esprit et de lui seul. Même si malheureusement, souvent les chrétiens refusent de vivre cette œuvre de l'Esprit, de reconnaître, d'accepter cette unité qui nous vient du Saint-Esprit. Mais même si certains la refusent, cette unité existe pourtant bel et bien, parce qu'elle ne dépend pas de nous. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit et de lui seul. À nous simplement ensuite de la recevoir comme un cadeau et de la vivre, alors au jour le jour. Cet Esprit de Dieu en nous, c'est lui qui nous unit, qui crée un lien au sein du peuple de Dieu. C'est lui aussi qui va nous apprendre, individuellement mais aussi ensemble, à avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est aussi lui qui va nous apprendre à vivre une relation fraternelle avec les autres membres du peuple de Dieu dans l'Église. C'est enfin lui qui va guider le peuple, ou chaque petit morceau de ce peuple, comme notre église locale, dans la recherche de la volonté de Dieu. Voilà la réponse à notre première question. L'Église, c'est quoi ? Eh bien, on peut le résumer en une phrase. L'Église, c'est un peuple que Dieu a désiré, qu'il a rendu possible à la croix et qu'il a uni par son Esprit. L'Esprit de Dieu nous unit parce qu'il est le même pour tous et en tous, mais nous restons humains, limités, faillibles. Ce n'est pas parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous qu'on devient parfait ou parfaitement unis même dans nos relations. Oui, les chrétiens sont tous unis par le même Esprit, oui, ils veulent tous se laisser guider par ce même Esprit, et pourtant, tous les chrétiens ne sont pas forcément toujours d'accord, ne s'entendent pas forcément très bien. L'unité n'est pas toujours visible ou n'est pas toujours vécue, et c'est parfois même l'inverse, et l'histoire nous l'a montré de manière assez cruelle, parce qu'on reste humain, limité. Et parfois, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous guide, mais c'est simplement les mauvais désirs qui viennent de notre cœur. Alors comment réagir justement face à ce manque d'unité visible ? Comment se comporter même en général entre membres du peuple de Dieu ? Eh bien, ça rejoint en fait la deuxième question qu'on voulait se poser ce matin. La première, c'était l'Église, c'est quoi ? On y a répondu. Et voici la question suivante. Est-ce qu'il y a un principe fondamental sur lequel l'Église repose ? Et si oui, quel est-il ? Eh bien, on va regarder, mais plus brièvement cette fois, cette question, avec un texte qui va introduire le premier « Les uns les autres » de notre série. Un texte court, très connu, je pense. Quelques paroles du Christ en Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire mes enfants, les membres de mon peuple, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Le principe essentiel sur lequel repose l'Église, c'est l'amour réciproque. Et j'insiste bien, l'amour réciproque. L'amour réciproque avant tout entre Dieu et nous, hein, notre texte le précise, oui, comme je vous ai aimé. Tout part de cet amour que Dieu nous a manifesté le premier, cet amour en Christ manifesté à la croix, où Dieu prend sur lui ce que nous méritions de recevoir. Cet amour que Dieu nous donne le premier, mais qui devient réciproque lorsque nous prenons conscience de toute l'importance du sacrifice du Christ pour nous. Touché par cet amour gratuit, nous voulons alors pouvoir aimer Dieu en retour. Nous recevons tellement d'amour de Dieu, sans le mériter, que nous ne pouvons pas faire autrement que de vouloir l'aimer aussi. Cet amour que Dieu nous donne en premier devient alors réciproque. Et cet amour devient le modèle de l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres au sein du peuple de Dieu. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Cet amour-là doit être un modèle. Et je dis bien que c'est un amour qu'il nous faut vivre. Parce qu'ici, on ne parle pas d'amour comme étant un sentiment. Un sentiment, ça ne se commande pas, ça ne se choisit pas. Et pourtant, ici, Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Donc ici, on ne parle pas de sentiment. De même, un sentiment, ça ne se voit pas, c'est invisible, c'est immatériel. Et pourtant, Jésus nous affirme « À ceci, tous reconnaîtront, ils verront, ils sauront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Ici, Jésus ne parle pas d'amour sentimental, même si ça ne l'empêche pas, mais il parle avant tout d'un amour de vie, d'acte, de relation, de comportement et donc de choix. L'amour que Dieu a pour nous s'est manifesté dans un acte extrêmement fort, la croix. Eh bien, de même, comme il nous a aimés, eh bien, de même, l'amour réciproque que nous devons avoir les uns pour les autres au sein de l'ensemble du peuple de Dieu, cet amour doit se manifester dans des actes forts et visibles. Notre amour réciproque doit se voir dans notre accueil, dans nos relations, dans notre solidarité, dans notre entraide, dans notre pardon mutuel, dans nos prières les uns pour les autres, dans notre souci les uns des autres, dans les moments de qualité que nous voulons vivre les uns avec les autres. Ça sera l'ensemble des autres, les uns les autres, que nous verrons dans cette série de prédications. Tout part de ce premier, les uns les autres. Si nous vivons une fraternité fidèle et visible, non seulement au sein de notre communauté locale, mais aussi avec les autres croyants des autres communautés chrétiennes de notre ville, le Christ nous affirme que ce sera le témoignage le plus puissant que nous pourrons apporter. Pas parce que nous aurions fait quelque chose de méritoire ou qui serait bien, mais simplement parce que dans ce cas-là, nous rendons visible l'unité qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Rendre visible l'œuvre de Dieu. Quel beau témoignage ! Je pense bien plus puissant que n'importe quel concert d'évangélisation, même si j'aime bien aussi, ils ont leur utilité, mais rendre visible l'œuvre de Dieu. Ça mérite quand même d'y travailler ou d'y réfléchir activement. Et d'ailleurs, pour ça, un groupe a été formé l'an dernier entre différentes églises d'Angoulême, celles qui voulaient bien y participer, d'Angoulême et ses environs, pour travailler à sensibiliser les chrétiens à cette question de l'unité. Je fais partie de ce groupe et celui qui le dirige ne nous est pas inconnu dans notre église locale, c'est notre frère Patrice Satoni. Ce groupe est tout neuf, mais il y a déjà quelques pistes de projets, donc durant l'année prochaine, attendez-vous à ce qu'on vienne vous en reparler, un peu plus concrètement peut-être. Mais en attendant, quel meilleur moyen de terminer cette prédication que par le geste d'unité des chrétiens par excellence. Celui que le Seigneur nous a laissé pour nous souvenir ensemble de ce qui a rendu possible ce peuple, l'œuvre du Christ sur la croix. Je parle bien sûr du partage de la scène. Je vais simplement laisser la place à Sophie qui va diriger ce moment.
Oui, on va se souvenir et se rappeler. Rappelez-vous, au cours du repas, Jésus a pris du pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il l'a coupé en morceaux, ce pain. Il a donné les morceaux à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il a pris une coupe, il a remercié Dieu. Il leur a donné en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Ce matin, le pain est rompu et nous savons que son sang a été versé pour chacun de nous. Je vous invite à prier. Dieu Tout-Puissant, tu sondes le cœur de tout humain, tu connais les désirs de chacun et rien ne t'est caché. Envoie ton Saint-Esprit pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer de tout notre être et célébrer dignement ton saint nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, je ne suis pas digne, mais par ta grâce, tu me libères du péché. Je veux me rappeler ton sacrifice pour moi en prenant ces éléments. Que ma vie te rende gloire, Jésus. Amen. Maintenant, les éléments vont circuler. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous, prenez ce pain et prenez ce jus de raisin et rendez grâce à Dieu pour ses bontés. Si pour l'instant vous ne vous sentez pas capable de prendre ce pain et ce jus de raisin, laissez passer les éléments. Le Seigneur parlera à votre cœur. Nous chanterons « À toi l'honneur ».
Condamnation. Ah. sur la croix et le prix de notre rançon. Roi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix et le prix de notre rançon.